Imagination, une série d'entretiens proposés par Alain Prochian, neurobiologiste, professeur au Collège de France.
Nous continuons cette série d'interviews sur le thème imagination et surtout sur la question du rôle de l'imagination dans l'art et dans la science, en recevant aujourd'hui le dramaturge Jean-François Perrin. Cher Jean-François, je ne vais pas me livrer au ridicule de te vouvoyer parce que ça fait quand même 25 ans qu'on travaille plus ou moins ensemble, en tout cas qu'on se connaît sans travailler, mais toujours avec le même plaisir. Donc j'annonce qu'on va se tutoyer. Jean-François Perret, tout le monde le connaît ou devrait le connaître. Hein. C'est un philosophe, c'est un historien de la littérature, c'est un littéraire, mais c'est surtout un homme de théâtre. Un fabricateur, je ne sais pas comment on peut dire, de théâtre, qui a commencé dès 1982 à produire des spectacles, à l'époque en collaboration avec Jean Jourdeuil, sur des textes très littéraires, hein, Montaigne, Lucrèce. Nous étions loin de la science, d'une certaine façon. Et puis, Heiner Müller et le théâtre feuilleton au théâtre de l'Odéon, ça s'est enclenché sur avec pas mal d'interruptions, mais on ne va pas faire tout l'historique, mais sur un traité des passions, c'est 93, puis un traité des formes, et puis un intérêt de plus en plus croissant à travers l'intérêt des formes sur une réflexion avec des scientifiques, ou sur des scientifiques. Le cas de Sophie Carr était particulièrement exemplaire pour la question de l'imaginaire ou de l'imagination en mathématiques, puisque Sophie Carr était une mathématicienne. Puis tournant autour de Galilée, avec l'arrivée de Galilée. Un moment important, Jean-François, c'était ton séjour, je crois, à l'IMPAC, qui est Experimental Media and Performing Arts Center, qui est aux États-Unis, à Troy, où tu as rencontré, tu as retrouvé le travail de l'œuvre de Thoreau, de Henry Thoreau, et ce qui s'en est suivi avec Ree Walden, et puis l'atelier que tu avais installé au Frénois, et puis des petites installations au 114 sur Steve Jobs, ex vivo in vitro sur les questions de la procréation, une nouvelle façon de faire les enfants, et plus récemment, très récemment, je dirais, la fabrique des monstres, ou des mesures pour mesures, que tu as créé au théâtre de Vidi et qui vient d'être terminé, si j'ose dire, à MC 93 de nouveau. Donc, on va avoir une discussion d'une cinquantaine de minutes assez libre sur, je ne dirais pas le rapport à science, mais l'absence de rapport à science ou comment ça peut fonctionner un metteur en scène qui ne s'intéresse pas uniquement à l'amour, même s'il s'intéresse, mais qui peut s'intéresser aussi aux sciences, pour éviter de dire la science.
La question est vaste, et surtout s'il faut la rapporter à celle de l'imagination. C'est vrai que, c'est même plus que sur la dernière période, les spectacles que j'ai faits, je peux dire que nous avons faits, puisque tu en as signé un certain nombre. D'ailleurs, le traité des formes, à partir de Ovid et tournant autour aussi de Darwin, il est clair que ce goût, cet intérêt pour la science est lié à la question de l'imagination, parce que je crois que c'est quand même la part vive de l'activité artistique, avec ou sans la science, qui dépend de cette imagination. Je crois que ce qui m'intéresse, et c'est là que le moment de l'imagination fait déclic, c'est quand un spectacle naît, enfin, commence à être pressenti par ce qu'ils font. Et je crois que la science, là, a été un peu catalyseur, déclencheur, parce que ça excite l'imagination, et même de quelqu'un qui n'en fait pas.
Ben, le cas de Marie Shelley, par exemple, sur lequel tu t'es penché le plus récemment.
Là, c'est une... Oui, c'est un peu un spectacle qui est arrivé par accro, parce que je pensais en faire un autre. D'ailleurs, plutôt qui était plutôt... la proposition tournait plutôt autour de Faust, parce que j'en avais déjà fait un il y a une vingtaine d'années, et puis je trouvais assez chic d'essayer d'en faire un deuxième, suivant un exemple connu. Et puis, moi, je trouve que je vais faire vite, parce que c'est quand même assez curieux, les détours aussi de l'imagination. Comme tu l'as rappelé, le spectacle a été créé à Lausanne, au théâtre de Villy, dirigé par Vincent Baudrier. Et puis, il se trouvait que j'étais dans les parages lorsque les Suisses ont commémoré l'année sans été. C'est 1816 où un volcan indonésien avait traqué le climat mondial d'ailleurs. Et là, c'est à ce moment-là que les Shelley se trouvaient au bord du lac et s'ennuyant un soir, Byron proposa qu'ils écrivent des histoires à se faire peur. Et c'est comme ça qu'est né Frankenstein. Du coup, j'ai lu Marie Shelley, parce que je connaissais pas bien le roman en fait. Et j'avais une prévention contre Frankenstein à cause de l'aspect un peu patibulaire, faut bien le dire, de Boris Karloff. Et là, j'étais une surprise, et j'ai retrouvé dans ce livre quelque chose qui a relancé notre imagination. Enfin, je dis notre parce que c'est une chose qu'on a partagée, à savoir la question du cerveau, qui est quand même un des personnages principaux, peut-être, du travail théâtral que nous faisons depuis des années. Et c'est un peu inattendu, parce qu'effectivement, on ne sait pas si on a vu que les films, j'allais dire, la tradition mythologique du cinéma, que la question de l'apprentissage, la question du cerveau de la créature est au centre du livre. Et c'est, du coup, ça a relancé pour le coup l'imagination et vraiment envie de faire un spectacle avec, à partir de ce livre.
Tu expliques que parfois que Marie Shelley, qui séchait sur son roman, le déclic, c'était une discussion scientifique. C'est-à-dire oui. que c'est la discussion sur la chimie, la physique et Galvani et les élèves de Galvani et les grenouilles qui sautent quand on leur met un peu de courant là où je pense. Et tout d'un coup, ça l'a fait démarrer dans l'imaginaire.
Mais oui, d'ailleurs, si on relit bien l'introduction qu'elle fait à l'édition de 1831, donc la première édition de 1818, elle revient sur un peu à la manière d'un scientifique. Comment j'ai fait ça, quoi? Comment j'ai trouvé quel était l'eureka, quoi? Et c'est vrai qu'elle explique que quand Byron a proposé cette histoire d'écrire un roman gothique, au fond, elle n'y arrivait pas. Elle séchait, comme tu dis, tous les soirs, tous les matins. Et c'est ce qui a déclenché, là, puisqu'on n'entend pas beaucoup ce mot aujourd'hui, ce qui a déclenché son imagination, pour le coup, c'est effectivement une conversation que Byron et Shelley s'intéressaient beaucoup à la chimie et à la science de son temps, avaient le soir, comme ça, je sais pas dans quel état ils étaient, mais en tout cas, ça a fait rêvasser la jeune Marie, 18 ans quand même, et ça a vraiment déclenché l'imagination. Elle montre qu'elle voit l'image de la créature et du créateur, etc., et que au fond, à partir de cette imagination-là, le roman s'écrit.
La question de l'électricité ou de la chimie, il y a aussi ce côté-là dans le Frankenstein, c'est le passage de l'alchimie à la chimie, c'est-à-dire qu'une éruption de la science au sein même du roman, finalement. C'est-à-dire qu'il y a un basculement du côté scientifique, c'est-à-dire qu'il produit des monstres. C'est aussi une interrogation assez contemporaine sur ce que la science peut faire pour le meilleur et parfois pour le pire. Après tout, Hiroshima n'est pas si loin de nous, malgré tout.
Et c'est vrai qu'il y a une sorte d'entrelacement des imaginations ou des imaginaires, là, effectivement, et une sorte de friction qui concerne Marie Shelley, comme on le rappelait, mais aussi, si on prend ce qui a été appelé « The Age of Wonder », ce moment de l'émerveillement, ce qui est essentiellement le moment de la révolution chimique, qui pour certains, notamment Humphrey Davy, le grand chimiste anglais de l'époque, juste après Lavoisier, quoi, considérait que cette révolution était aussi importante que la révolution copernicienne. C'est vrai que ça en fiche un coup aux poètes, quoi, à la littérature, à l'imaginaire poétique. Et là, on a d'un côté Keats qui va y voir dans cette espèce de... Effectivement, si les quatre éléments, bah, c'est des choses composées, c'est plus des éléments élémentaires, si je puis dire. Il pensait que ça allait désenchanter le monde, alors que quelqu'un comme Coleridge pense au contraire que cette nouvelle vision, cette nouvelle invention du monde va être un réservoir de métaphores, comme il dit.
Une question qu'on peut se poser, enfin que moi je me pose un petit peu dans ton parcours, c'est que tu n'as pas commencé avec une science qui te fait faire travailler l'imagination, parce que Montaigne, Lucrèce, Heinemüller, il y a eu un moment où la science s'est introduite, c'était dans le Traité des Passions avec Goethe et la question de la vision des couleurs. C'est tardif, au fond, dans ton travail, cette éruption de la science.
Je suis moi-même assez tardif. Enfin, je veux dire, je me suis assez tardivement intéressé au théâtre. Ce n'est pas une vocation que j'ai eu à 5 ans et demi en disant, mais tu es sur les planches, mais tu es arrivé sur le tard, et comme tu le rappelais, par l'entremise de Jean Jourdain. Mais je crois qu'il n'y a pas de solution de continuité entre le Montaigne et le Lucrèce, par exemple, parce que au fond, le Lucrèce est une autre façon de parler de Montaigne. C'est le poète qu'il cite le plus, Montaigne. Et Montaigne... Il y a quand même chez Lucrèce comme chez Montaigne une espèce de scepticisme, une méfiance à l'égard des superstitions, par exemple, ou des grands mots, de la grandiloquence. Et chez Lucrèce, il y a une revendication scientifique ou pseudo-scientifique. Et chez Montaigne était copernicien quand même, galiléen. Enfin, c'est quand même pas mal pour l'époque. Enfin, il était sceptique là-dessus. Il y aura sans doute une autre vision des choses dans quelques années. Je serais d'accord aussi. Mais je vois pas de contradiction tout à fait entre il n'y a pas deux parties, la littérature, la poésie, Montaigne, Lucrèce, les sonnets de Shakespeare et tout ça, et puis quelque chose qui a davantage une teneur scientifique plus grande. J'y vois quand même une petite continuité, si je peux être présomptueux.
Tu peux. De toute façon, on n'est pas obligé de se mettre dans la continuité non plus. C'est-à-dire que...
Non, mais il y a des ruptures, etc. Et le fait, tout d'un coup, effectivement, de m'intéresser aux passions. Mais puis il y avait, ça a déclenché des rencontres. Et quand même, le travail artistique, le travail de l'imagination artistique, c'est pas comme un programme académique. On peut pas déposer tout à fait ça. Faut faire des demandes. C'est des coups de cœur, des rencontres. Et c'est vrai qu'il y a eu des rencontres avec, notamment avec toi et avec Jean-Didier Vincent, puis avec toi. Après, c'est l'amitié qui fait. Ce qu'il y a de montagnien chez moi, c'est que je pratique volontiers les trois commerces, les livres, l'amitié et les femmes.
C'est un bon choix.
Dans le désordre.
Oui, dans le désordre.
Ouais, dans le désordre. Il faut mieux le garder dans le désordre.
Tout à l'heure, je parlais du cas de Sofika Kobalevskaya, donc grande mathématicienne qui faisait tourner les toupies. C'est un des moments où tu t'intéresses le plus aux mathématiques, en fait, dans les différents montages que tu as pu faire au théâtre. Est-ce que ce cas-là, justement, est un peu particulier parce que, bon, les sciences expérimentales, la physique avec Galilée, ou l'astronomie, on a eu... Françoise Combes qui est venue nous raconter les trous noirs, la matière noire, c'était tout à fait poétique, on n'aurait pas compris grand-chose, surtout moi, mais enfin, on entendait une musique tout à fait belle. Sofika, c'est un point un petit peu aberrant.
Oui, parce que les deux versants côtés, pour être proustien, qui m'ont fait un peu travailler, aller vers la science, où mon imagination rencontrait des problèmes ou des questions scientifiques, c'était plutôt d'un côté l'intelligence artificielle, parce que la rencontre avec Alan Turing, qui est un des personnages aussi importants du théâtre, et puis la biologie de l'autre côté. Les mathématiques, c'est un peu différent, mais c'est pas par goût des mathématiques, ou c'est pas vers les mathématiques que je suis allé, c'est vers Sofie Kowalewski, c'est tout à fait différent, et je l'ai rencontré tout à fait par hasard, c'est ça qui est, je parlais puisque le thème est l'imagination, j'essayais en venant de réfléchir à ce que ça voulait dire pour moi, donc depuis au fond les années 60. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est comment ça se met en branle. Et c'est vrai que ça s'est passé, ma rencontre avec elle, au bazar de l'Hôtel de Ville, où j'aime bien me promener, mais pas pour ce que vous croyez, ni en bas, mais dans la librairie. Et il y avait à ce moment-là, en tête de gondole, le roman qu'elle a écrit, Une nihiliste. Et je sais pas, ça m'a attiré. En plus, elle était la femme de Kowalewski, donc, qui était un naturaliste correspondant de Darwin. En Russie. Et comme c'était à l'époque où nous faisions, toi et moi, les Darwin, j'ai trouvé que c'était tout ça une espèce de signe qu'elle me faisait. Après, je me suis rendu compte qu'elle était mathématicienne. Alors là, les choses se sont compliquées parce que c'est assez difficile d'entrer même dans l'univers des mathématiques. Michel Audin, la mathématicienne avec qui on avait travaillé, m'a expliqué pour me mettre à peu près dans l'ambiance qu'il y avait à peu près 50 personnes au monde qui pouvaient comprendre l'article de Sophie Kolevski sur la toupie en question. J'ai bien compris, j'en ferai jamais partie. Et je veux dire, là, elle riait. Si elle avait été un homme, elle aurait ri dans sa barbe, quoi. Bon, du coup, il y a eu des travaux d'approche. Mais ce qui m'intéressait, c'était son ambivalence aussi. Elle était écrivaine. Il y avait deux cerveaux chez elle qui se faisaient concurrence. C'était une grande mathématicienne, mais elle a aussi beaucoup écrit. Et puis cette génération des nihilistes. Toujours quelque chose qui m'a un peu excité, oui. Enfin, le nihilisme en général, d'ailleurs.
Donc, on va faire une pause musicale et puis on va reprendre cette discussion sur ce thème ni art ni science.
Culture, imagination, Alain Prochian.
Donc Jean-François Perret, nous allons reprendre cet entretien. Merci encore d'être là pour
c'est
nous
moi.
Parler des questions de fabrique du théâtre dans un monde contemporain, d'une certaine façon, c'est-à-dire un théâtre de ce temps qu'on s'en réjouisse ou qu'on s'en afflige, est quand même un temps où la science est partout, même si personne ne la comprend vraiment. Donc, il faudra bien qu'on s'en occupe. Donc, il y a aussi dans ton parcours assez récent une forme de retour à la nature, si j'ose dire, mais pas véritablement retour à la nature, à travers le personnage de Thoreau, que curieusement, d'ailleurs, tu réintroduis à l'occasion d'un séjour dans un endroit où il n'y a que de la technique, à Troyes, puisque c'est le temple des arts... Je dirais vivant, mais vu du côté
du numérique,
quoi. Donc, tu te retrouves dans un endroit où on fait du numérique, et tout d'un coup, t'es pas très loin du Connecticut, c'est la cabane qui l'emporte. Comment ça s'est passé, cette affaire?
Alors, c'est une question compliquée, surtout si on y réfléchit du point de vue de l'imagination. C'est un livre que je traînais avec moi qui m'attachait comme ça attache dans une casserole depuis mes 20 ans, quoi, depuis les années 60, où là, si je devais réécrire l'histoire de de ma vie imaginaire, enfin, ou la vie de mon imagination, tout partirait de là quand même. Je veux dire, c'est quand même, d'ailleurs, assez curieux, quoi. Enfin bon, je suis pas là pour raconter ça, mais c'est vrai que c'est un livre que j'ai lu assez tôt, qui se lisait beaucoup à l'époque, Walden, mais d'une manière beaucoup plus rose que verte, ou même rouge. Beaucoup plus la critique de l'aliénation, du travail, de la propriété, plus que la défense de la nature. Et d'ailleurs, pour un Américain, d'ailleurs, c'est pas tout à fait un retour à la nature, parce que c'était plutôt une façon d'aller vers la nature. Ils font pas tellement, ils reculaient pas vers, ils retournaient pas à la nature comme vous pouvez le faire ou l'espérer en Europe. Il y avait une frontière, quoi, quand même. Encore, il découvrait la nature. Tu as fait allusion au fait qu'il était naturaliste. C'est vrai qu'il allait faire des croquis, faire des prélèvements dans les montagnes à côté, qu'il envoyait à Harvard, à son ancien professeur. C'était un livre qui, je sais pas, m'a toujours parlé, alors que j'ai jamais eu l'intention de vivre dans une cabane tout seul au bord de l'eau. Mais je sais pas pourquoi. C'est sans doute là un travail un peu à mon insu, mais le travail de l'imagination qui m'a fait avoir cette relation forte avec le livre. Alors après, il se trouve que bien, bah alors oui, 40 ans après, presque, j'ai été invité à l'Impact dont tu parlais, qui est effectivement un lieu de résidence où on travaille de toutes les nouvelles technologies. Il n'avait pas eu de français encore à l'époque, donc on est allé avec une petite équipe et moi essayer de... Bon, j'allais visiter, je croyais que j'allais visiter. Et puis tout d'un coup, je me suis retrouvé devant le board de l'EMPA qui me dit « Mais qu'est-ce que vous avez comme projet ?» J'avais pas pensé à ça. Et là, tout d'un coup, j'ai trouvé paradoxal ou intéressant d'interroger l'œuvre de quelqu'un qui passe souvent pour anti-technique, technophobe, Thoreau, mais je crois que c'est beaucoup plus compliqué que ça, parce que c'est un des premiers à la penser vraiment. Mais enfin bon, c'est vrai qu'il se retire un peu dans la nature. Il n'y retourne pas, mais il s'y retire pour la voir, pour la connaître. J'ai lancé ça comme ça. Et ça, les Américains aiment bien, surtout à l'époque, qu'on leur parle de Thoreau. Il y avait de nouveau un culte un petit peu de cet auteur qui était considéré comme le père de l'écologie américaine. C'est 1850, hein, quand même. Et ils ont sauté sur la chose et ça m'a obligé à revenir à ce livre qui m'avait au fond jamais vraiment quitté. Et donc ça a donné effectivement cette chose bizarre que d'un spectacle sur la nature ou quelqu'un dans la nature était hyper technologique. On avait toute la panoplie possible. As a lake of chance lies on the surface of the earth. Sky, water. Oui, c'était aussi pour voir comment, avec ces nouvelles, les écrans, en gros, comment les écrans interrogent le livre, quoi. Qu'est-ce qui reste d'un livre? Qu'est-ce qui pouvait rester d'un livre culte, comme ça, un livre de fondateur de la littérature américaine, si on le passe à travers les machines, si on fait un paysage maintenant, c'est pas simplement les longues descriptions qu'en fait Thoreau, c'est des photographies, Donc on a essayé de...
D'où les photos de Pierre Nouvel.
Oui, tout. On a photographié pendant un an, pendant toutes les heures, le même paysage de l'étang de Walden. Ça donne un résultat...
Combien de photos ça fait?
8770, si je compte
8770 photos, c'est pas mal,
quand même. Et que Pierre Nouvel, donc, avait fait. Enfin, c'est une machine. Et on les a d'ailleurs mis exposés sur un grand mur au Frénois, dans l'exposition dont tu parlais. Donc, voilà, oui, il y avait une sorte de transfert de support de l'imagination, quoi. C'est-à-dire, ce qui était dans le livre, on essayait à la fois d'en faire quelque chose de purement technique, parce qu'il y avait une traduction automatique aussi, etc. Et puis aussi un spectacle de théâtre, quoi, qui a donné Harry Walden, là. Mais ça, il y a 2-3 ans, quoi.
Henry Walden, d'ailleurs, la musique joue un rôle assez important. Il y a aussi une invention. Il y a beaucoup de techniques, en fait, dans tous les spectacles que tu montes.
Sauf le. Oui, en gros, c'est pas la même question que celle du rapport à la science, comme on sait. Mais c'est vrai que la question de ces nouvelles technologies, comme on disait, ou le fait qu'on soit rentré dans le monde de l'ordinateur, et moi, j'y suis pas né dedans, je suis pas né natif de cette époque-là, et un peu comme le dit Primo Levi, quand on lui a donné son premier ordinateur, il a compris qu'on sonnait quand même la diane dans la caserne, quoi. Il se passait quelque chose. Alors, ou bien beaucoup d'artistes de théâtre, notamment, font un peu la politique de l'autruche et font comme si de rien n'était. C'est-à-dire, le théâtre sera toujours le théâtre. Il suffit d'avoir une chaise, un grand acteur. On me l'a encore dit hier, comme ça, quand je parle, essayer de parler de et au conservatoire d'art dramatique. Bon, ils sont pas convaincus qu'on vit dans un univers technique. Bon, ben, moi, je pense que ça fait question. Ça fait question. Le dialogue aux machines fait question au dialogue humain, interhumain, qui est quand même le fond de code de source du théâtre classique. Donc, oui, ça. J'ai essayé d'interroger la scène, le plateau, la présence, le spectacle vivant à partir de ces machines. Voilà, c'est parce que, on est tous continués par des machines. Augmenter ou diminuer, va savoir, mais, donc je crois que le comédien est un agent intéressant pour étudier cette, parce que c'est un être artificiel, c'est une machine, le comédien. Bon, pour étudier ces questions-là aujourd'hui. Donc, c'était un peu une petite contribution à l'imagination actuelle.
Comédien est une machine avec imagination, parce que dans la façon dont tu montes tes spectacles, j'en étais le témoin, parce que même si on a travaillé ensemble, au niveau du texte, au niveau de la réflexion, des échanges de... Et si je les ai signés en les assumant complètement, hein, y compris le soir de la première, où on peut se dire ouais, peut-être,
mais bon, j'en connais qui le regrettent,
c'était un grand plaisir toujours, bien entendu. Il reste que on voit bien que la machine comédienne est une machine avec imagination, parce que ils construisent aussi le spectacle dans la façon dont tu t'y prends.
Oui, alors non, mais c'était un peu une provocation de dire une machine, parce que c'est effectivement des cerveaux de... Il y a normalement, en principe, un cerveau de sapiens dans chaque comédien, et donc de l'imagination, de la sensibilité. Ce que je veux dire, j'employais le mot machine parce que c'est intéressant pour étudier le rapport entre, je veux dire ça un peu massivement et de manière un peu dualiste, mais entre le vivant et l'artificiel. Or, quand même, on n'a pas abordé le mot encore... bien que tu sois là, c'est-à-dire la question du vivant quand même, et la part de l'imagination, que l'imagination a dans la fabrication d'un spectacle vivant, justement, et pas inanimé. Et c'est vrai que le comédien est un être vivant, mais artificiel en ce sens que, d'abord, il dit pas son texte, à la différence de ce que j'essaie de faire en ce moment, il en apprend un, donc c'est une machine à mémoire, et effectivement, après, il a une imagination, effectivement, et après... des capacités, c'est lié d'ailleurs à l'improvisation à laquelle je fais beaucoup appel dans les spectacles. Tu as fait allusion tout à l'heure rapidement à la question de la musique aussi, qui est complètement structurante pour moi dans un spectacle. Je peux même difficilement concevoir un spectacle sans une création musicale. Et le travail notamment sur pas mal d'années avec Alexandros Markias, qui est un grand improvisateur, même professeur d'improvisation au conservatoire, était tout à fait un élément de création des spectacles, quoi. Après, il pouvait écrire la chose comme le spectacle s'écrit une fois définitivement. Mais je pense que là, il faudrait parler de ce rapport entre l'imagination, justement, et l'improvisation, qui sont les deux mamelles qu'on sollicite un peu dans notre travail, si on peut solliciter des mamelles.
Mais c'est une musique qui passe beaucoup par la technique, en fait. D'ailleurs aussi les vidéos, hein, parce que tu as été un des premiers à introduire, enfin maintenant ça se fait beaucoup, mais à introduire la
ça
vidéo
dans, coup,
le,
ouais.
dans le spectacle de théâtre. La place de la même si c'est à propos de la science souvent, si la science peut être déclencheuse ou si tu as affaire à des scientifiques pour réfléchir sur des questions. On s'est rencontrés plutôt autour de Turing, en fait. C'est là où ça a quand même pris, puisque je m'intéressais un petit peu à Turing. D'ailleurs, pas au Turing qui t'intéressait, d'ailleurs. C'est ça qui était assez drôle. C'est-à-dire que moi, le Turing de l'intelligence artificielle, honnêtement, il me gonflait un peu. Je préférais le morphogénéticien, c'est normal, puisque c'est mon métier. Mais bon, ça m'obligeait à lire pas mal et à travailler. Mais donc, il y a la place de la science dans le déclenchement des choses. Et puis la place des scientifiques qui est pas que, hein, il y a des philosophes, il y a Françoise Balibar est souvent venue autour de la table, et puis Jean-Didier Vincent puisqu'on en parlait, Stiles pour le cas Sophica.
Mais c'est vrai qu'on a sur les Darwin, nous aussi travaillé avec Peter Sloterdijk.
On a parlé oui, comme ça avant.
Non mais je veux dire, tu parlais des philosophes
oui,
aussi.
Oui, des philosophes aussi. Donc tout ce milieu là qui tourne. Donc c'est très riche en intelligence, hein, plus ou moins bonne qualité, mais enfin en intelligence en tout cas théorique. Mais il y a un moment, il y a quand même une part technique qui est très très forte. On la voit beaucoup à travers la musique.
Ben oui, parce que quand je me commençais à cause de Turing à m'intéresser, disons aux machines, dans le rapport à la nouvelle technologie, il y a deux moments différents. C'est le moment où la machine est mécanique, la chose peut être en direct ou enregistrée, mais ce qui a quand même pas mal changé, c'est les travail sur le temps réel. Et ça, c'est quand même les musiciens qui avaient une certaine avance sur les gens de théâtre, et ça m'a intéressé à ce moment-là de voir comment la musique, la MAO, quoi, la musique assistée par ordinateur, ce qui m'a fait rencontrer par Stigler à l'époque, l'IRCA, mais ça continue puisque le dernier spectacle a été produit en collaboration avec l'IRCA, et tu recevras, je crois, aussi son directeur, Franck Madelener, qui m'a fait rencontrer Danny Leguizé, qui est un jeune compositeur. Donc c'est vrai que je crois que c'est un geste important de voir ce que, même pour l'imagination, comment elle est transformée aussi par le fait qu'on ait des animaux prothétiques, enfin avec prothèses en tout cas. Et donc le fait d'externaliser par exemple pas mal de mémoire dans des machines, ça veut dire quoi? Et c'est vrai que là, je crois que le comédien, et c'est vrai que c'est par Turing que l'idée m'est venue, parce qu'au fond, quand il est devant une machine, un homme, les machines pensent-elles? Je me pose la question, les comédiens pensent-ils? Est-ce qu'ils pensent le texte qu'ils sont en train de dire? Quand on leur fait dire un texte scientifique, c'est pas dire qu'ils pensent. Moi non plus, d'ailleurs. Mais au fond, la question de l'intelligence artificielle renvoie à la question aussi, qu'est-ce que penser tout court? Est-ce que c'est reproduire? Si j'écoute Socrate, je reproduis son discours, parce que je peux pas dire le contraire, je suis comme l'esclave, je suis d'accord. Est-ce que j'ai pensé quelque chose pour autant? Je veux dire, ça ouvre un abîme de questions. Et dont
les machines sont plus libres de ce point de vue.
De ce point de vue, oui, oui, et puis elles durent plus longtemps. Il y a une certaine obsolescence aussi, mais elle est programmée par nous quand elles se programment elles-mêmes. Bon, mais du coup, toutes ces questions-là, et c'est en fait ce qui a relancé et lancé un petit peu le cerveau sur notre scène. Ça nous a pas mal occupé, comme tu sais. C'est au fond le cerveau artificiel. Enfin, c'est celui que rêvait de construire de ses mains Turing, qui m'a davantage amené à la question du cerveau de Sapiens, un peu trop gros, comme on a eu l'occasion de plusieurs fois de le signaler, quoi.
Et comme j'espère,
et sur lequel on travaille encore. Oui,
nous continuerons dans un avenir proche sur les fameux.
Et Sophie Kowalewski, c'était ça aussi, c'est qu'elle devait avoir un cerveau assez curieux pour être à la fois.
Oui, il y a des gens qui ont envie d'avoir leur cerveau après. J'ai quelques collègues, j'aimerais qu'ils me lèguent leur cerveau regarder.
Moi, j'ai très peu de
comment c'est construit à l'intérieur, parce que c'est très étrange ce qu'il en sort parfois. Génial, peut-être.
C'est
parfois,
ça l'avantage peut-être des scientifiques sur les.
Je suis pas sûr qu'on y verrait grand-chose.
Sur les gens de théâtre, j'ai pas tellement envie de connaître le cerveau de mes collègues.
Bon. Non, mais. On en parlera tout à l'heure, mais tu n'as peut-être pas envie de connaître le cerveau de tes collègues, mais tu t'intéresses quand même au cerveau des scientifiques.
Oui, c'est autre chose.
C'est-à-dire comment ça pense, ce truc, c'est quand même quelque chose une des questions que tu te poses le travail.
Ça nous renvoie encore, je suis un bon élève, à la question de l'imagination, parce qu'effectivement, ce qui, dans le rapport aux scientifiques, et dans le rapport que nous avons, par exemple, ce qui, c'est pas tellement le contenu qui m'intéresse le contenu cognitif, parce qu'au fond, tout le monde, ou bien on n'y comprend rien, ou bien c'est vulgarisé, popularisé. C'est plutôt le geste. Quand on recevait dans nos répétitions des scientifiques, on essaie de comprendre ce qu'ils sont en train d'essayer de chercher. Quels paris ils font. C'est effectivement de comprendre plutôt la manière dont procède leur imagination, comment on invente une manip ou on a une idée d'eux, plutôt que de son résultat, parce qu'on n'en fera rien. Et puis le théâtre est pas fait pour ça. En revanche, le théâtre peut s'intéresser à la manière dont les cerveaux pensent, plus qu'au résultat d'ailleurs. Mais c'est ça, je crois qu'il y a quelque chose là. En tout cas, moi, qui m'intrigue et qui intrigue quand même. Quand on songe aux grandes découvertes scientifiques, c'est toujours assez frappant, soit que ce soit un peu par hasard, mais c'est jamais par hasard complètement, d'essayer de voir comment. Par exemple, sur Darwin, j'ai jamais essayé de comprendre très bien ce qu'il en raconte sur les tortues. Bon, mais en même temps, ce qui m'intrigue, c'est de voir ce type devant la nature, comment son cerveau a réagi, quoi. C'est-à-dire essayer de comprendre comment il pense, quoi. Et ça, il l'explique d'une certaine manière. Et Galilée aussi, en faisant des paris sans rien démontrer, etc. Oui, je pense que c'est des objets pour l'imagination théâtrale. Bon, après, on y arrive, on n'y arrive pas, mais je pense que ça concerne un peu tout le monde, parce que, je veux dire, les cerveaux des scientifiques font quand même tu disais pour le meilleur et pour le pire, oui, donc ils sont quand même, on a intérêt à les surveiller de près, quand même.
Ouais, je crois aussi. Mais avant de les surveiller, on va faire une deuxième pause musicale.
Imagination, Alain Prochian.
Après cette pause musicale, nous reprenons la discussion avec Jean-François Perret, dramaturge, faiseur de théâtre, avec qui il se trouve que j'ai un tout petit peu travaillé autour de spectacles qui ont à voir avec avec la science, enfin dont la science peut être le prétexte ou l'occasion en tout cas. Donc Jean-François, puisque nous nous tutoyons depuis longtemps, on continue. Jean-François, on a quitté la dernière discussion, là, juste avant la pause, au fond, sur la question de comment ça trouve un savant, comment ça fonctionne un cerveau de savant. Bon, il n'y a pas de raison que ça fonctionne très différemment d'un cerveau d'un autre sapiens. Peut-être que les objets d'intérêt sont un peu différents pour des raisons historiques de l'histoire du bonhomme mais, ou de la bonne femme. Mais c'est vrai que on peut se poser la question de la découverte. Hein. L'autre jour, je discutais un petit peu avec Claudine Tiercelin, qui est une philosophe, comme tu sais, qui s'intéresse à la science. Et la question de la découverte, c'est clair que même pour une philosophe, je dirais, assez contemporaine, c'est-à-dire pas un bachelardien attardé comme moi, la question du sujet se pose malgré tout. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire que découvrir quelque chose ? Et donc, je crois que dans les recherches que tu as faites, parce que ce sont des recherches sur Turing ou sur Darwin, peut-être pas sur Claude Bernard, c'est plutôt moi qui m'en suis occupé, on rencontre quand même toujours cette question du sujet, de l'imagination du sujet, et du doute et des choses comme ça. Est-ce que ça te crée un lien avec ce que toi ou des gens comme toi peuvent fabriquer ou... Est-ce que ça te paraît bizarre par rapport à ce qu'on pense de ce que sont les savants, des machines ? Il n'y a pas que les comédiens qui sont des machines. On pense souvent que les savants sont des machines logiques. On a du mal à imaginer qu'il y ait du liquide à l'intérieur.
Oui, c'est une question difficile parce que bon, je connais ta pensée là-dessus. Enfin, tu viens de la rappeler, mais bon, c'est qu'effectivement, tu veux, je pense à juste titre, mais je ne suis pas le meilleur juge, installer le sujet dans la science, enfin bon, qu'il y a un sujet qui, alors qu'effectivement on a l'impression que là l'objectivité aurait complètement gagné quoi, et que le geste de la recherche serait fait par des êtres inanimés sur des objets inanimés. Bon, donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du cerveau à l'œuvre. Comment le cerveau de Darwin, c'est pas celui d'un autre. Donc il y a quand même là autant que de sujets. Je parlais de singularité, du fonctionnement de l'imagination, peut-être aussi du cerveau. Alors on pourrait, si on était un peu paresseux, dire ça serait une heureuse coïncidence avec avec l'art, avec les arts dont on ne doute pas encore tout à fait, parce que ça vient, parce qu'on va bientôt déléguer aussi aux machines le travail de l'imagination artistique.
Je suis sûr que Franck Madener,
il va en parler mieux que moi.
En parlera.
Bon, mais on pourrait penser justement, il ne fait pas doute pour certains, pour les artistes eux-mêmes d'ailleurs, que le sujet de l'art, enfin celui qui fabrique de l'art, est là. Bon. Je dirais qu'il est tellement là, moi, que ça m'agace. Donc, je trouve que il y a une formidable... Ce serait expliqué, c'est pas un jugement de valeur, mais on passe pas simplement... Enfin, passe de la question du sujet de l'art, de l'artiste, quoi, au narcissisme. Il y a quand même une espèce d'égo... Enfin, de façon égocentrée, d'exhibitionnisme dans l'art actuel. Peut-être c'est la dernière sortie avant l'autoroute des machines, qui, moi, n'est pas mon truc. Parce que je trouve pas intéressant. Ma mère me le disait. Les professeurs l'ont confirmé. Et ma tutelle m'a fait comprendre que j'étais insignifiant. Donc, j'ai pas tellement envie de me mettre en avant. Là, c'est un côté brechtien. Je vis plutôt la troisième personne. Ce qui m'intéresse plus, c'est peut-être comme ça que j'ai rencontré d'autres cerveaux, c'est d'essayer de me mettre dans les cerveaux des autres ou de faire passer les cerveaux des autres dans le mien plutôt que de raconter ma vie, mes mariages... j'ai un chat maintenant, enfin des choses comme ça. C'est le personnage principal probablement. Bon, donc ceci n'est pas un singe d'ailleurs. On parlera peut-être des singes. Bien sûr qu'il y a encore, je dis encore parce que quand même on voit de plus en plus dans, justement, dans, on faisait allusion très rapidement à la question des arts numériques tout à l'heure, il y a un rapport de l'artiste à la machine qui est en train de se transformer complètement, et pas dans un seul sens, mais on sent qu'effectivement, bah, j'ai vécu ça avec le jeune compositeur Dany Leguizi, avec qui j'ai travaillé sur La Fabrique des Monstres, et en gros on se disait, mais qu'est-ce que ce serait qu'une musique qui échappe à son créateur. Et là, on a fait un truc big data, et c'est du machine learning, on a rentré Schubert et puis il est ressorti autre chose. Et au fond, ça n'a pas embêté Daniele, qui est un grand artiste, de signer quelque chose qui lui a échappé en partie. Enfin, il s'est livré à l'expérience. Lui, son narcissisme. Et donc, ça bouge pas mal, mais on verra surtout dans les arts plastiques, et dans, c'est pas simplement les artistes qui sont victimes de ça. Tout possesseur d'un iPhone ou d'un smartphone, je veux pas faire de publicité pour l'autre, là, passe son temps à faire des selfies. Bon. Donc, il y a, et puis, voir les réseaux sociaux. Il y a une grande présence du monde qu'il ne faudrait pas confondre peut-être avec la question du sujet de la science. Alors, il peut se passer ceci, c'est une hypothèse de travail aujourd'hui, que tu arrives à faire revenir le sujet dans la science pendant qu'il disparaît par ailleurs de l'art.
Le sujet de la science,
une sorte de disparition quand même.
Ce n'est pas tout à fait le même. Ce que je pense, c'est le sujet qui ne sait pas qu'il est en train de trouver.
C'est pas symétrique.
C'est pas la même chose. C'est-à-dire que la grande question des scientifiques qu'on trouvait, je le dis souvent, mais bon, c'est parce que ça me taraude, c'est comment ai-je trouvé, quoi. Tout d'un coup, Claude Bernard, il a trouvé la fonction glycogénique du foie, le concept du milieu intérieur. Pareil pour Darwin, hein, l'angoisse de Darwin, est-ce que je me suis trompé et tout. Donc en fait, comment ça m'est tombé sur la tête un truc pareil? Et c'est en général, c'est l'interrogation qui suit la découverte, ça peut durer plusieurs années. Donc je pense que c'est pas tout à fait la même chose. Je pense pas que ce soit un sujet égotique.
Non,
c'est plutôt un sujet anxieux.
Non, je disais que c'est pas symétrique, mais je veux dire que s'il y a quand même cette présence à réaffirmer, il va peut-être se passer qu'après ce grand moment narcissique, ce qui n'est pas le même, une espèce de disparition, d'effacement peut-être. Moi, je l'ai vécu déjà à titre personnel dans mon dernier spectacle, j'ai l'impression d'avoir disparu. On m'a dit, t'es pas dedans. Et c'était au fond, je crois avoir vécu ça. C'est intéressant du point de vue de l'imagination, c'est-à-dire quelque chose qui est parti.
En science, si tu veux, ce qu'on essaye toujours, c'est d'effacer les gens.
Oui.
C'est-à-dire que, en fait, c'est mal élevé de dire qu'on a fait quelque chose. C'est-à-dire que ça doit être tellement pur et quasiment paranoïaque comme structure. C'est-à-dire que on déchiffre le grand livre de la nature et on n'a rien à y voir d'une certaine façon. Donc, il faut que ce soit suffisamment objectif la personne qui a fait le boulot, qui a mis quand même pas mal d'énergie, peut-être même d'inquiétude, parce qu'il y a pas mal de suicides chez les savants, malgré tout, comme chez les paysans, autant, c'est du même taux. Mais il doit quand même disparaître, parce que sinon, c'est pas vrai. C'est un peu différent de ce que sont aujourd'hui les artistes. Je ne dis pas que demain, les artistes ne vont pas aussi disparaître.
L'art même, comme marché, etc., fonctionne à la signature. De toute façon, c'est encore... Mais je pense qu'il y a des frémissements, il y a des choses qui bougent, que cache peut-être l'excès de subjectivité ou de narcissisme même de la pratique artistique en ce moment, je veux dire, bon, et que je ne partage pas, comme tu sais. Mais bon, c'est une question ouverte, je ne sais pas, effectivement, normalement, si un savant découvre les lois de l'évolution, ça va être l'évolution, quoi, ça va être...
Mais c'est une question que j'ai posée à Edith Hurd, comme je l'ai posée à Claudine Tiercelin, et j'ai pas eu tout à fait la même réponse, ça c'est clair. Si ça avait pas été Darwin, mais une machine qui avait eu tous les éléments qu'a eu Darwin, est-ce que la machine nous aurait sorti la même chose? C'est une belle manip par la pensée. Alors, j'aimerais bien la faire. Je suis pas sûr qu'on puisse la faire, mais ce serait une manip assez intéressante à faire, voir s'il nous sort la sélection naturelle par Survival of the Fittest. Parce qu'il n'a pas inventé l'évolution, Darwin, bien entendu. Il a inventé un mécanisme pour l'évolution.
Enfin, il a quand même réussi à se faire un nom.
Oui, il est enterré à Westminster, avec Hawkins.
Oui.
Voilà. Donc,
Oui, mais donc certaines modalités de présence du sujet dans la science sont complexes. Galilée aussi, quoi, quand même. Ils ne disparaissent pas complètement.
Ah non, Galilée, il est même là tout le temps. C'est-à-dire que ce serait intéressant de revenir sur l'histoire de Galilée, parce que qu'est-ce que Galilée a véritablement vu dans sa lunette qu'il n'avait pas imaginé avant de mettre le nez dedans, ou l'œil.
Comme disait François, il faut déjà être copernicien pour voir ce qu'il a vu, quoi.
Voilà, donc...
c'est un travail d'imagination.
Un travail d'imagination extraordinaire.
Et complété par la rhétorique des deux discours, enfin des discours sur les deux... le titre, là. Où tu, même si tu n'es pas copernicien au début, tu l'es à la fin. Mais c'est une question de rhétorique, effectivement. Il faudra attendre Newton, au fond, pour que la confirmation de ses imaginations soit...
Peut-être que Kepler était plus près.
Peut-être, oui.
Ouais. Parce qu'au moins, il avait des elliptiques. Et était pas
oui, il avait l'idéologie du cercle. Galilée, c'était peut-être un tort. Mais voilà. C'est bien, ça, oui.
Oui, c'est intéressant, ça. Donc, avant de nous séparer brièvement, puisque je suis sûr que nous allons revoir dans un avenir très proche, en dehors du studio, tu t'intéresses avec moi un petit peu aux questions du singe. Comment tu vois aujourd'hui un chimpanzé ? Quand tu regardes un chimpanzé, qu'est-ce que tu vois ?
Alors, d'abord, je n'en vois pas beaucoup. En personne, je veux dire. Bon, mais c'est vrai que j'en ai vu beaucoup en images et dans des textes, puisqu'effectivement, d'un côté comme de l'autre, enfin, côté imagination scientifique et imagination théâtrale, on se pose un petit peu la question de... Ben, c'est l'objet de ton cours, d'ailleurs, au collège, des 1,23% qui, selon certains, feraient la différence entre l'homme et le singe, enfin, du point de vue... génétique. Bon, c'est vrai que ça me paraît. Comment je le vois ? Ben, je crois que c'est pas stable justement. Ce qui est intéressant, c'est dans le travail de l'imagination là. Peut-être qu'elles se rejoignent des imaginations scientifiques et théâtrales en l'occurrence. C'est qu'elles peuvent travailler contre l'opinion. Ce qui m'agace un petit peu, c'est au fond les arguments d'autorité des scientifiques. Souvent, c'est pas les scientifiques eux-mêmes, c'est les éditorialistes ou les journalistes qui disent, les scientifiques disent, ou les idéologues, les scientifiques disent que, bon. Et puis, on en profite pour faire l'économie, justement, de l'imagination. C'est-à-dire, je pense que, sans doute, on ne voit pas un chimpanzé de la même manière avant et après Darwin, mais même si on le regardait déjà avant et on trouvait déjà que c'était louche. Mais là, maintenant, bon, on le regarde différemment. Et puis, quand on cligne les yeux devant ces chiffres 98,7 et 1,23, eh bien, c'est vrai que ça travaille, quoi. Ça travaille du cerveau. Et je pense que... Moi, ce que j'aimerais saisir, alors que toi, tu essaies de comprendre comment on est passé des 500 cm3 de nos cousins aux 1400 cm3 qui sont ceux de Sapiens, d'essayer de profiter de ce moment pour essayer de voir autrement, peut-être, oui, de voir ce que... Derrière les images, tu dirais, mais je sais pas, c'est pas exactement ça. Je sais pas encore, puis c'est un travail en cours. Mais en tout cas, ça excite l'imagination. Mais ce qui est assez intéressant, c'est dans le spectacle vivant, c'est quand même l'imagination qui assure à chaque fois que ça peut être vivant. Parce que c'est ça qui fait. Il pourrait ne pas m'intriguer. Alors j'ai été revoir Nénette, évidemment, trucs comme ça, mais je vois pas beaucoup de
singes. Au jardin des plantes.
Oui, au jardin des plantes. Je vois pas beaucoup de singes dans mon entourage, mais c'est vrai qu'il y a dans mon imagination est pas mal peuplée de singes, et on en trouve tout le temps, hein, quand on commence, on a fait un peu l'expérience tous les deux, quand on commence dans les, quand on lit de la presse, quand on lit des livres, où on trouve des singes partout.
D'ailleurs, dans le premier spectacle autour de Darwin.
Ben oui.
Les chimères en automne, tu commences par l'adresse aux académiciens de Kafka.
Oui, ben, effectivement, on doit pouvoir relire le texte de Kafka, qui est l'histoire, effectivement, comment un singe s'est hominisé. Il vient raconter ça aux académiciens. Bon, c'est une version peut-être aussi intéressante pour l'intelligence et l'imagination que comment ça s'est passé vraiment. Mais ce qui est intéressant, c'est le choc des deux. Et c'est plus intéressant que de dire 98,7, c'est presque ça, embrassons-nous Folleville et puis les espèces, on n'en a plus rien à foutre, etc. D'ailleurs, il y a des gens qui mettent la barrière encore ailleurs, entre un ministre de la justice et les grands singes, il n'y a pas de différence, et une une vedette américaine a encore fait le coup là récemment, sous drogue, bien sûr, mais à propos d'une...
Il faut faire attention, la drogue peut rendre lucide.
En l'occurrence, sur une collaboratrice d'Obama. La frontière, elle est, à mon avis, elle ne cessera jamais de bouger, mais se mettre un peu dessus, c'est quand même toujours passer des frontières, faire de l'art aussi. Là.
Oui, mais c'est vraiment aussi... une question d'imaginer et d'être en même temps stupéfait.
Voilà.
Comment une si petite différence génétique peut amener à une si grande différence comportementale ? Parce qu'après tout, bon, la culture chimpanzé, j'ai rien contre, mais il faut quand même pas exagérer. Et en même temps, un étonnement, quoi. Il s'en est fallu d'un poil, quoi.
Je suis d'accord qu'il y a une certaine différence entre les singes et nous. Comme tu dirais, c'est nous qui écrivons sur eux et pas le contraire. Mais il y a quand même quelque chose du point de vue, c'est peut-être là où les points de vue seraient un peu divergents, il y a quelque chose d'assez intéressant du point de vue d'imagination, oui, dans ce désir d'être singe dont tu parles, comme ça, effectivement. Et ça, sur le devenir animal, enfin, je vais pas reprendre toute l'œuvre de Kafka, mais on en a pas fini en disant que, bon, bah, il y a une grosse différence ou il y en a pas. C'est ça que je veux dire. On en a pas fini parce que c'est intéressant de comprendre scientifiquement, vous d'essayer de comprendre, si j'ai bien suivi, c'est pas évident, quoi.
Non, c'est même très difficile.
C'est très difficile, mais c'est intriguant, c'est excitant, comme une œuvre d'art, je dirais. C'est intéressant aussi du point de vue de l'imagination d'explorer le trouble entre. Oui, je suis pas un singe, mais quand même.
Mais si tu es un singe, comme les autres.
Bon, je suis un primate, pas tout à fait comme les autres.
Pas tout à fait comme les autres.
Ni comme les autres primates de mon genre,
voilà,
de mon espèce, enfin bon. Mais là, il y a quand même, aller y voir, quoi.
Ah ben, c'est sûr qu'il y a un désir d'animalité, ou un regret d'animalité.
Plus grande que d'un côté que de l'autre, parce qu'on ne sait pas du tout si les singes auraient envie de devenir académiciens,
on peut essayer,
professeurs au Collège de France, alors qu'il y a pas mal de
avec
de
un professeurs. Peu de manipulation génétique,
il y a des professeurs au Collège de France qui ont envie d'être singes, manifestement.
Oui, oui, c'est probable.
Il y a
une sorte de regret
De fascination, oui, et peut-être envie de sortir de quelque chose aussi, du tragique aussi, quoi.
Sortir du tragique, parce que c'est quand même dur d'être sapiens. C'est sur ces mots que nous allons terminer. C'est plus facile d'être un singe heureux qu'un sapiens heureux. Je suis pas sûr d'ailleurs, mais bon, c'est une bonne fin en tout cas. Je te remercie, Jean-François, d'être venu bavarder avec moi. Ailleurs qu'au bistrot.
Merci à toi.
Imagination par Alain Prochian. Prise de son, Éric Boisset. Réalisation, Christine Robert, assistée de Delphine Derbier, stagiaire.